Bienvenue à nouveau à toutes et à tous. Avez-vous déjà fait cette expérience de goûter à un aliment ou à un plat qui est tellement bon qu'ensuite vous n'aviez qu'une envie, c'est de pouvoir y goûter à nouveau? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez eu l'étonnement de constater que ça ne faisait plus le même effet. Comme si vos papilles s'étaient habituées à ce goût extraordinaire, si fort, si bon. Et pour ma part, il y a des fois, je me dis, je vais espacer les moments où je mange de cet aliment ou de ce plat pour pouvoir encore l'apprécier comme la première fois. Mais ça ne fonctionne pas. Jamais on ne retrouve le goût aussi fort de la toute première fois. Et il y en a qui diraient, mais oui, c'est ce qui se passe avec les parfums. D'autres diraient, c'est ce qui se passe avec certaines drogues. D'autres encore diraient, c'est ce qui se passe avec le premier amour. Et toute la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Est-ce que vous vous rappelez de cette fois ou de ces fois où un passage de la Bible a été tellement extraordinaire, a tellement touché votre cœur? De ces fois où vous avez partagé votre témoignage ou l'évangile à des personnes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et il y a quelque chose qui s'est passé aussi en vous à ce moment-là. De ces moments que vous avez passés seul avec Dieu, dans les moments peut-être même difficiles, et vous avez senti sa présence, vous avez senti sa consolation. Il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé. Ou des moments passés en groupe de jeunes, jeunes adultes, ou dans un groupe de maison, et c'était tellement bon. Mais parfois aussi, on peut se dire, la dernière fois que ça nous est arrivé, c'était pas cette semaine, ce n'était pas le mois dernier, c'était il y a, et on cherche, il y a, on ne sait plus, tellement longtemps. Les personnes qui se régalent régulièrement de Jésus-Christ, de méditer la parole de Dieu, de le voir à l'œuvre, diront « j'en veux encore ». Mais j'ai parfois entendu, et vous avez peut-être vous-même parfois entendu des personnes qui disent « Seigneur, je veux plus de toi ». Personnellement, quand j'entends cette phrase, je trouve deux choses. Premièrement, que c'est désobligeant à l'égard de Dieu. Et deuxièmement, que c'est inquiétant. Alors bien sûr, tout dépend de ce que l'on entend par « Seigneur, je veux plus de toi ». Tout est toujours une question de définition. Mais voilà, quelqu'un qui dit ce genre de phrase, je me dis « qu'est-ce que tu entends par là ?» Parce que dans la Bible, dans le premier chapitre de l'apôtre Paul aux Romains, il est écrit que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, cela en fait nous permet de le connaître lui-même et de nous émerveiller de lui. Déjà à la création, dans le livre de Genèse, on voit que tout ce qu'il a créé, il a dit que c'était bon, et l'ensemble, c'est même très bon. Si on prend, vous avez vos Bibles, que ce soit ici ou chez vous, le livre donc de Romains, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 1, versets 19 à 21. Pour ma part, je lis dans la Bible en français courant. Il est écrit « Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous, croyants et non-croyants, chrétiens et non-chrétiens. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas, comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Je trouve ce passage très fort pour nous dire, mais c'est là devant tes yeux et tu demandes plus. Quand je dis que c'est désobligeant à l'égard de Dieu, c'est pour dire, mais qu'est-ce qu'il doit encore faire ? Est-ce que sa nature n'est pas extraordinaire si nous ne la défigurons pas ? Et les 5 sens qu'il nous a donnés pour apprécier tout dans la vie, est-ce que ça ne nous permet pas de goûter à des choses extraordinaires pourvu que ça se fasse selon ses règles à lui, pourvu que ça ne se fasse pas dans l'excès, d'une manière où finalement ces choses deviennent des idoles et in fine une source de souffrance, d'autodestruction. Mais Dieu nous a tout donné. Et bien sûr, quand nous avons cru en Jésus-Christ, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait se lasser de ce que Jésus-Christ a fait à la croix ? De tout ce qui s'est passé pendant ces 3 jours où on se disait c'est fini, mais lui, il donne tout pour nous. Et il est ressuscité, et il est vivant, et il intercède pour nous chaque jour. Il a dit chaque jour, tous les jours, je suis avec toi jusqu'à la fin. Vous comprenez pourquoi cette phrase, Seigneur, je veux plus de toi, peut vraiment sembler désobligeante, injuste à l'égard de Dieu. Mais ce phénomène, en fait, on peut déjà le constater dans l'Antiquité. Quand les Israélites, à l'époque de Moïse, ont quitté l'Égypte où ils étaient des esclaves, et ils sont dans le désert, et parce qu'ils réclament à manger, Dieu leur donne une nourriture céleste qu'ils récoltent comme la rosée le matin, qu'on appelle la manne. Et dans Exode chapitre 16, il est dit que quand ils utilisaient ces sortes de graines pour en faire de la farine et finalement du pain, au lieu d'être du simple pain, c'était même un gâteau qui avait un goût de miel. Mais on voit que dans Nombre chapitre 11 et 21, les mêmes personnes, avec la même nourriture divine, disent « Notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. » Et vraiment, la parole nous dit que toutes les Écritures sont là pour nous mettre en garde, parce que nous sommes faits de la même chair, des mêmes os, de la même poussière que les Israélites. De la même nature. C'est là pour nous mettre en garde. Quel est notre rapport aujourd'hui à Dieu, à la Bible, à sa présence qui est toujours là? Dieu est omniprésent. Est-ce que nous disons qu'il n'y a que ça, toujours que la Bible? Par ailleurs, on voit que Jésus, quand il est venu sur terre, il a indiqué à une foule qui l'écoutait, du temps de Moïse, Dieu a donné la manne pour nourrir vos corps physiques, et Jésus nous dit que lui, il est plus que la manne, qu'il est le pain qui donne la vie, le pain même de la vie éternelle. Donc vraiment, ce parallèle Forcément, il l'avait en tête. Est-ce que vous aussi, vous allez finir par vous lasser, par devenir indifférent à ce pain de vie, à cette parole qui nous a été donnée pour le connaître? Parfois, on se dit, j'ai lu toute la Bible, je la connais, j'en ai fait le tour. Peut-être que vous avez déjà pensé ça, moi je l'ai pensé. Certaines personnes, ils ont seulement entendu la Bible, des extraits, ils ne l'ouvrent jamais quasiment. Et ils pensent que, voilà, c'est pas vraiment formidable. Mais ce n'est pas Dieu qui a perdu de sa gloire. Ce n'est pas que Dieu est devenu fade. Ce n'est pas que Dieu s'est terni. Le problème est ailleurs. Le problème, ce n'est pas « Toi, Dieu, donne-moi plus de toi ». La question, c'est que notre conscience, nos papilles spirituelles, ne savent plus apprécier ce Dieu qui ne change pas, qui est toujours aussi extraordinaire. Et je me dis que si Dieu est le créateur de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, au point même que les scientifiques ont découvert il y a plusieurs années de ça, que même l'atome et le noyau des cellules n'est pas ce qu'il y a de plus petit. On peut aller encore dans quelque chose de plus petit. Si Dieu est le Dieu de l'infini, est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut encore vous surprendre? Quand vous lisez la Bible, quand vous prenez des temps avec lui, rien que pour lui, pas même pour avoir des choses extraordinaires qu'il va faire, rien que pour lui, est-ce que vous ne croyez pas que ce Dieu de l'infini qui nous dit « Tu n'as pas encore tout vu, je peux encore t'émerveiller ». Est-ce que vous ne croyez pas qu'il veut encore nous montrer ça? Jésus faisait ce parallèle entre la manne et lui. Et je me dis, si Jésus a aussi dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Les petits-enfants, ils se posent plein de questions. Est-ce que nous nous posons encore des questions? Surtout, est-ce que nous posons à Dieu encore des questions, comme un petit enfant? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi si? Ou est-ce que nous nous sommes lassés? Est-ce que nous allons chercher dans sa parole? Chercher les réponses que d'autres peut-être ont reçues? Ou est-ce que nous ne cherchons plus? Est-ce que nous pensons que nous avons trouvé? C'est à cause de ça qu'on se dit « mais bof ». Ben, Seigneur, j'aimerais plus de toi. Et on pense que ça va tomber comme ça. Mais nous, est-ce que nous faisons encore tous nos efforts, comme dit l'apôtre Paul, tous nos efforts pour le rencontrer? Je pense encore aux 10 lépreux que Jésus a guéris. Il y en a 9 qui ont été guéris. Ils ont vu de grandes choses, plus de Dieu. Mais il n'y en a qu'un qui est revenu. Et la Bible souligne que c'était un Samaritain. J'ai envie de dire, est-ce que si nous, chrétiens, qui sommes dans la tradition chrétienne depuis longtemps, est-ce que nous ne serions pas comme ces 9? Waouh, super extraordinaire! Mais quelqu'un qui connaît moins ce Jésus, qui a moins toute cette tradition, lui, il va rebrousser chemin. Et revenir à Jésus, à sa personne même. Pas juste dire merci Seigneur en général, revenir à ses pieds. Cette personne s'est mise face contre terre aux pieds de Jésus-Christ et lui a la remercié et l'a glorifié. Et c'est ça que Dieu cherche. Et je pense que si nous voulons vivre des choses extraordinaires, il y en a peut-être qui ne le cherchent pas, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette église qui veulent plus, et dans l'Église de Dieu en général, qui veulent plus. Mais je pense que ce plus-là ne se vit que si Dieu aussi reçoit plus de nous. Pas juste des remerciements en général. Est-ce que nous rebroussons chemin, ce qu'on appelle la conversion? Est-ce que nous quittons certaines choses que nous savons que Dieu n'aime pas pour nous mettre face contre terre, nous humilier devant Dieu, pour le remercier de tout ce qu'il nous a déjà donné et pour le glorifier, le louer comme il en est digne? Est-ce que nous avons cette relation personnelle avec Dieu ou est-ce que nous retournons à notre vie et on a remercié, on est content, on est guéri? Et ce point m'amène au deuxième. Pourquoi est-ce que je trouve que demander plus de Dieu, c'est inquiétant? C'est parce que je me dis, quelle est la vie de prière personnelle de cette personne avec Jésus-Christ? Je pense que quand on attend de l'Église, du moment de culte en particulier, plus, je me pose vraiment des questions. Si tu vivais régulièrement, on va dire que les personnes qui trouvent que oui, mais tu comprends, avec le travail, la vie de famille, au moins accorder à Dieu une demi-journée, une matinée, chaque semaine. Et au fur et à mesure, peut-être mettre 15, 20 minutes, on va s'organiser par rapport à, ok, tu as besoin de 8 heures de sommeil, mais organise-toi pour avoir 15, 20 minutes. Le matin, le soir, le midi, peu importe. Lui consacrer, rien qu'à lui, pas seulement en faisant autre chose, on nous a dit prier en tout temps, mais consacrer, rien qu'à lui, 15, 20 minutes par jour, chaque jour. Je pense que jamais plus il y aura ces demandes. J'attends plus du moment de culte, j'attends plus de Dieu. Parce que quand Dieu voit ça, que l'on se met dans le lieu secret, pour prier, pour le chercher, je ne crois en aucun cas qu'il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent. Et même si ça ne se fait pas tous les jours, même si ça ne se fait pas même chaque semaine, mais ce sont des choses tellement délicieuses qu'on dit encore. J'en veux encore. C'est impossible de demander des choses divines et de dire je veux plus que le divin. On en veut encore. Et on pose les conditions pour ce faire. Ce temps mis à part. Je crois aussi que si nous sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit Saint en nous. Et quand nous faisons ce que Dieu attend, cet Esprit-là se réjouit, il tressaille de joie. Et quand vous sentez ça, ça c'est extraordinaire aussi. Et ça, on va encore dire au Seigneur, encore. Et comment est-ce qu'on peut le vivre? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut se réjouir? La parole nous dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Au contraire, on veut le réjouir. À votre avis? Là encore, la balle est dans notre camp. Quand Dieu nous pointe, nous attire notre conscience en disant « ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. » Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous attristons le Saint-Esprit et après nous disons la vie chrétienne, faut pas s'étonner. Hein. Mais si, quand il titille notre conscience, nous nous repentons et nous cessons de faire ce que nous faisons, que nous changeons de direction pour revenir à Jésus, il y a des choses, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas décider quand ça va se faire, mais vous allez continuer à vivre et vivre à nouveau ces choses divine. Rien que de sentir la grâce de Dieu, c'est extraordinaire. Le pardon de Dieu, la couverture, la purification par le sang de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Et lorsque Dieu nous dit « pardonne ton frère », qu'est-ce que nous faisons? Pardonne ta sœur, pardonne ton ennemi qui n'est même pas de ta famille, qui n'est même en Christ, ton collègue, etc., etc. Pardonne celui qui t'a fait mal, celui qui t'a déçu. Si nous faisons ça, nous allons réjouir le Seigneur. Si nous ne le faisons pas, il ne faut pas nous étonner que nous ayons le cœur lourd et que nous finissions par être lassés, soi-disant, de la vie chrétienne. Un jour, le Seigneur m'avait fait remarquer que quand on est une servante de Dieu, on ne fait pas les choses pour soi. Le propre d'un serviteur ou d'une servante, c'est de s'occuper des affaires des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette évidence. Que quand quelqu'un fait le ménage, par exemple pour des particuliers, il ne s'occupe pas de sa maison. Et il ne va pas en tirer profit. Ce n'est pas lui qui va profiter de la maison nettoyée. Ce n'est pas lui qui va profiter du repas qui a été préparé. Il me disait, c'est ça, un serviteur ou une servante. OK. Et dans le lieu où j'étais, il y avait, c'était au collège biblique, il y avait une poubelle où les personnes qui buvaient du soda en canettes et en bouteilles en plastique pouvaient mettre ces déchets recyclables. Et dans le pays où j'étais, au Danemark, on pouvait récupérer de l'argent en recyclant ça. C'est extraordinaire. Et bien, cette poubelle se remplissait, et personne ne daignait la vider. Et normalement, avec l'argent récolté, on devait aider ceux qui ne pouvaient pas payer leur voyage d'études ou de voyage missionnaire. Et moi, je me disais, je ne bois pas ce genre de choses dans des canettes et dans des bouteilles en plastique. Je ne fais que boire l'eau dans un verre. Et je n'ai pas besoin d'argent pour m'aider à faire ces voyages. Autrement dit, je ne suis pas concernée. Mais Jésus aurait pu dire la même chose plutôt que d'aller à la croix. Ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas de besoin. Et ça m'a travaillé pendant plusieurs jours, une semaine. Et peut-être que Dieu vous travaille sur quelque chose qu'il attend que vous fassiez. Et il a abattu mes raisonnements. Et j'ai fini par prendre cette poubelle que personne ne voulait vider, à aller dans cet endroit, et honnêtement, je grognais encore. J'ai mis ces canettes et ces bouteilles en plastique, j'ai récupéré l'argent. Mais sur le chemin du retour, il y a une joie qui a flambé. Vous savez, on dit que le Saint-Esprit, quand il y a eu la Pentecôte, c'était comme des flammes de feu. On dit que Dieu est comme un feu dévorant. Mais si vous êtes en Christ, ce feu ne va pas vous dévorer. Il n'est pas là pour vous détruire, il est là pour détruire ce qui n'est pas de Dieu. Et c'était une joie extraordinaire. Pendant que je marchais, j'ai envie de sautiller comme un petit enfant. Donc il y a de grandes choses que Dieu attend que nous fassions, il y a des petites choses que Dieu attend que nous fassions. Et si seulement on voulait bien les faire, on attend plus, mais et nous? Et toute cette semaine et la semaine dernière, en écoutant et discutant avec les uns et les autres, je leur disais « Ah mais c'est de ça dont je vais parler ce dimanche, ah mais c'est de ça dont je vais parler ce dimanche ». Voilà. Quand on lit la parole de Dieu, on peut encore être émerveillé. On peut, comme disait Joël, se décentrer de soi-même et être centré beaucoup plus sur Dieu, ce que lui, il attend. Et là, vous verrez ce qui va se passer. Vous ne direz plus « je veux plus », vous direz « je veux encore ». Est-ce que aussi, je l'ai déjà mentionné, nous sommes prêts à être des témoins de Jésus-Christ ? Là où nous sommes, Jésus avait dit « Je sais que vous aurez honte de témoigner de moi ». Il savait que la chair et l'ennemi sont là pour qu'on ait ce sentiment. Mais si nous voulons plaire à Dieu, afin que voilà, celui qui est en nous soit réjoui, nous devons nous battre dans la prière pour parvenir à être des témoins de Jésus-Christ auprès de nos proches, auprès de nos collègues, auprès de nos camarades de promotion. Et nous verrons ce que Dieu fait. On ne peut pas vivre de grandes choses avec Dieu en restant confiné, c'est le cas de le dire, dans notre confort, dans seulement ce que nous, on a envie de faire, et attendre plus. Il y a comme une équation spirituelle qui ne marche pas. Donc en conclusion, Nous avons besoin pour continuer à recevoir cette présence divine, à s'en régaler, de renouveler, de rafraîchir nos papilles spirituelles. David, sans cesse, il dit « Je me délecte de ta parole, je me délecte de ta parole, elle fait mes délices. » Voilà ce que David disait. Jésus dit aussi « Si tu as besoin de colire pour améliorer ta vue, demande-le-moi. » Demandons effectivement, activement à Dieu, il va s'opérer quelque chose. Il ne faut pas juste le penser, demandons-le. Et nous reverrons la gloire de Dieu. Et apprenons à être reconnaissants. Ne pensons pas que oui, ben, ça va de soi. Disons merci à Dieu. Et ça nous fera du bien. Et faisons donc ce qui réjouit le Seigneur. Souvenons-nous ce que Jésus a dit des villes de Capernaum, de Bethsaïda, de toutes ces villes de la Décapole. Il a dit, vous avez vu de grandes choses. Ah oui, vous avez vu de grandes choses. Mais ce qui intéressait Dieu, c'était la repentance. C'était un changement de façon de vivre. Là où Dieu dit, là, j'aime pas. C'est ça que Dieu attendait. Et Dieu n'est pas là pour faire du spectacle. Je pense qu'au fur et à mesure de nos vies, de nos attentes peut-être, certains d'entre vous, par maturité, ne font plus ce genre de demandes. Mais quand j'étais étudiante, j'espérais voir de grandes choses comme du temps de Jésus, même dans l'amphithéâtre où j'étais. Et après plusieurs attentes déçues, on se finit par se rendre compte, mais Dieu, il agit quand il veut et comme il veut, et il n'est pas là pour faire du spectacle. Et quand ces interventions sont extraordinaires, sont spectaculaires, encore une fois, ce qu'il cherche, c'est un tête-à-tête, un cœur-à-cœur de personnes qui viennent à lui, à sa personne, pour le remercier. J'ai beaucoup aimé le chant que nous avons chanté qui dit « Je te donne mon cœur » et qui parle de ce qu'on met une huile sur sa tête. Et ça fait exactement référence à l'histoire qui m'a inspiré ce message. Je pensais à Marie de Béthanie, qui, quelques jours avant la mort de Jésus, elle a tout donné. Ce qui faisait son statut social. Ce qui lui aurait permis peut-être d'avoir un bon mari. Elle a tout donné. Je pensais aussi aux mages d'Orient dont nous avons beaucoup parlé en nous commémorant la naissance de Jésus. Ils ont donné quelque chose qui a la valeur, autant que possible, à la valeur, à la hauteur de Christ. Ils n'ont pas donné du rien du tout, du moins que rien. Et nous savons et nous pouvons redécouvrir si besoin qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui a de la valeur à ses yeux. Alors Jésus nous disait, veille. Veille sur ta relation avec Dieu. Veille sur ce que tu fais. Est-ce que tu te délectes encore de la parole de Dieu? Sois vigilant. Je terminerai par ce que Jésus dit dans Apocalypse, au chapitre 2. On va commencer au verset 2, et ça montre à quel point pour Dieu ce n'est pas un détail. Je connais ton activité, Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas et tu as démasqué leur imposture. Tu as, il le répète, de la persévérance, c'est bien. Tu as même souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu extraordinaire, toi qui es toujours là, à nos côtés, toi qui as tout créé bon, tellement bon, toi qui as tout offert pour nous lors de ton sacrifice, toi qui nous donnes chaque jour la vie, toi dont l'amour se renouvelle chaque matin pour nous. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton Saint-Esprit puisse nous aider, parce que tu dis « sans moi nous ne pouvons rien faire, sans toi nous ne pouvons rien faire ». Nous voulons, Seigneur, aide-nous à pouvoir nous réjouir, nous régaler à nouveau quand nous méditons ta parole. Si nous devons, par tous nos efforts, lire dans une autre version cette Bible, lire ce que d'autres ont découvert. Mais Seigneur, nous voulons faire tous nos efforts, nous voulons refuser une relation terne, tiède. Nous voulons nous réveiller, nous ne voulons pas réclamer ni aux autres ni à toi. Nous voulons faire notre part. Avec cette foi, cette assurance que tu nous surprendras, que tu nous réjouiras parce que tu te réjouiras en nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Nous n'avons pas besoin de plus, tu es extraordinaire, déjà. Nous voulons te remercier de tout ce que tu as déjà fait, ce dont nous n'avons même pas conscience. Nous voulons te dire merci, merci. Merci Seigneur. Amen. Nous allons chanter un chant qui s'intitule « Viens toucher ma vie ». C'est un chant récent. Et vous allez repérer des expressions qui ont été mentionnées dans cette prédication. Donc rappelez-vous que tout est une question de définition. Qu'est-ce qu'on entend par recevoir plus de Dieu ? Et j'espère que tous ces chants qui ont été chantés par l'équipe de louanges aujourd'hui vont pouvoir encore vous réjouir et vous encourager, vous faire du bien. Et que chaque jour, vous prendrez la décision et vous ferez les choses, les pas à faire avec persévérance. Et Dieu régulièrement va honorer le sacrifice que vous ferez comme il l'a fait pour tous les autres avant nous.